La question que je voulais vous poser, le quinquennat d'Emmanuel Macron va être un chemin de croix selon vous ? Parce que le problème avec les Antilles aujourd'hui, c'est que on a le sentiment que pour lui c'est mort, hein, et pour Emmanuel Macron, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, de toute façon c'est mort. Il a atteint un niveau d'impopularité rarement atteint par un président de la République en France. J'ai fait des recherches de popularité sur les différents mandats de nos présidents. Alors celui qui s'en sort le mieux, c'est Chirac quand même, hein. Ouais, il a débuté son mandat à 64%, il le termine avec 56%, donc c'est plutôt pas mal, hein.
Oui,
donc,
surtout pour quelqu'un qui a rien fait pratiquement.
Ceci explique cela.
Tout à fait.
Voilà. C'est tout à fait ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que nous avons...
Il n'y a même pas eu d'attentat, il n'y a même pas eu... Il n'y a rien eu, Chirac.
Le dernier mandat, ça a été un tapis roulant. Il a laissé venir, il a laissé couler. Mitterrand, François, hein, de son petit nom, ensuite, pareil, lui, il débute très haut, hein, 74%. Bon, il va descendre un peu, mais il terminera à 40. Là aussi, un deuxième mandat qui sera quand même beaucoup plus tranquille que le premier. Ensuite, c'est Sarkozy, hein, Nicolas, de son prénom, qui débute à 63%. Donc ça, c'est plutôt pas mal, pour terminer à 30%.
Ah oui, quand même.
Emmanuel Macron, lui, avait débuté...
Et Hollande.
Attends.
Ah pardon.
Je vais en descendant. Emmanuel Macron avait débuté à 57%. Son premier mandat, il l'avait terminé à 35%. Ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs d'être réélu pour un deuxième. Et c'est le seul d'ailleurs. Hein.
Oui.
Oui.
C'est le seul réélu. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons François Hollande. Voilà. François Hollande qui débutera à 55% et terminera à 18%. Ah oui, c'est dur. Parce que même aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui est détesté par une partie des Français, il est quand même à 26% de satisfaction. Donc il a encore une marge par rapport à François Hollande. Donc est-ce que ça va être un long chemin de croix, Sébastien ?
Sébastien.
Ouais, ça va être compliqué dans les prochains mois, c'est sûr. C'est sûr que les casseroles et tout le reste vont être de sortie, c'est certain. Mais après, regardez, on parlait de Jacques Chirac. Jacques Chirac, à son décès, a fait quand même l'objet il y a plein de personnes qui l'aimaient bien, ce président. Si on regarde,
on l'a surtout aimé quand il est parti.
On aime bien les présidents 20 ans après, quoi, voilà. En général.
Ouais. On dit oui, il était bien lui quand même.
Il était pas mal à l'époque. et on oublie aussi, c'est ce qu'on disait, toutes les casseroles que. Ouais, toutes les casseroles.
Ah non, mais Chirac, il a quand même une valise. Hein. C'est quand même entre la mairie, la mairie de Paris, ouais. Le RPR.
Et le sens politique de 95 quand même.
Oui.
Où il va dissoudre l'Assemblée nationale en espérant de nouveau avoir une majorité après.
C'est bien que tu parles de ça, parce qu'au moins ça nous permet de parler de Chirac. Alors, extraordinaire, d'autant plus que quand on dissout une assemblée, faut vite, je crois que dans la Constitution, tu peux faire le vote un mois après, 4 semaines après. Et lui, il dit, on le fera dans... Je sais pas. Voilà. Comme si les autres n'avaient pas le temps, les opposants, de s'organiser.
Oui, parce que... Vas-y,
revenons sur le président Macron. Pour moi, je pense que les prochaines... Bon, après, honnêtement, il vaut mieux avoir une sortie casserole qu'une sortie serpenton. Où le président avance avec deux élus, avec des élus, il n'y a personne sur...
Ah oui.
La première sortie, l'image est terrible.
Oui.
Terrible. Je sais pas si vous...
Il était encadré que par des élus.
À un moment donné, il faut peut-être mieux aller dans une foule et prendre dans la figure que... Bon, c'est vrai, on demande aux Français de travailler plus. De prendre dans la figure que c'est pas possible, etc.
Et il y va, hein ?
Oui.
On peut pas lui retirer ça.
La sortie de Serpenton, moi je vous le dis, l'image a été terrible. Pour moi, a été terrible. Un président isolé avec des élus autour de lui et des
ennemis. Personne.
Et ouais. Compliqué, quoi.
Ah oui, on est d'accord.
Célestin, il est allé au charbon, quoi.
Il y va. Et puis, c'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que ça va être un chemin de croix pour lui? Parce que moi, ça passe, j'hésiterai à sortir.
Oui, mais il va pas hésiter. Ce qui est étonnant, moi, personnellement, j'apprécierais le. Le Conseil constitutionnel a retoqué 2 ou 3 articles ou 4, je ne sais.
Oui.
Peut-être que ce serait l'occasion de mettre tranquillement, à plat, en appelant tout le monde. Ces points étaient très importants, en particulier pour les seniors.
Enfin, après, vas-y.
Il s'est quand même tapé les gilets jaunes.
Oui.
Le Covid.
Oui.
Là, il fait cette réforme parce qu'il a dit qu'il l'a fait. Il l'a fait tout début de mandat. Ouais.
Hein. Il a été élu.
Voilà. Ça fait un an qu'il est élu. Il lui reste 4 ans. Moi, à mon avis, je ne sais pas si mon avis est politique et voilà, mais. Il lui reste 4 ans, je ne pense pas qu'il va balancer des réformes aussi puissantes que celles de la retraite dans les 4 ans.
Non, mais visiblement, dans les cartons, il y a la loi travail, il y a
l'immigration.
La loi immigration.
Il y a la loi immigration, enfin, il y a encore pas mal de trucs. Alors après, c'est vrai, on pourrait dire, qu'est-ce qui vient de s'emmerder à faire ça? Franchement, tu as fait un premier mandat. Bon, tu t'es pris les gilets jaunes, le truc, tu t'es pris la pandémie, le Covid et tout. Là, t'es réélu. Mais laisse courir, fais tes 5 ans peinards, qu'est-ce que tu t'emmerdes à aller faire, franchement, une réforme sur la retraite.
C'est sûrement comme ça qu'on a dû fonctionner Chirac et Hollande.
C'est complètement fou quand même. C'est quand tu y penses, tu te dis, mais attends, t'as 5 ans peinards à l'Elysée, là tu laisses couler. Et puis ce sera pour le prochain qui arrivera, et puis basta. Non, il le fait, et il savait très bien, enfin, je pense qu'il est quand même, il a certainement beaucoup de défauts, mais il n'en a pas. Enfin, celui-là, en tout cas, je ne l'imagine pas, il n'est pas con. Et il savait très bien que de faire une réforme sur, en demandant aux Français de travailler 2 ans de plus, c'est se prendre une claque phénoménale dans la tronche.
Comme l'a dit Sébastien, il y a pléthore de conseillers politiques, communication, etc.
Donc, qu'on n'a pas vu.
Et d'un autre côté, Sébastien, il vous le demande, est-ce qu'il avait vraiment le choix? La dette de la France est abyssale, d'accord? La cotation de la France pourrait s'écrouler et on ne trouverait plus de place pour emprunter. Il en va peut-être de la crédibilité de notre pays aux yeux des créanciers. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses Sébastien, il est obligé de passer par là.
C'est pour, à mon sens, c'est pour ça qu'il a fait cette réforme paramétrique, alors que dans les valises, il avait la CFDT derrière lui en 2019-2020,
oui.
Sur cette fameuse réforme par point, et qu'il est parti sur le paramétrique, parce qu'à mon sens, il fallait aller vite par rapport à ce classement. C'est-à-dire que là, il y a des enjeux, je pense, qui sont loin de, très loin de nous en termes financiers.
Je pense aussi,
le déclassement de la France, si on change de catégorie par rapport à la finance, ça pouvait faire du mal, plus de mal que ce qu'on a. Bon, après, on a une dette abyssale. Voilà, la dette abyssale, elle a été creusée et je pense qu'elle continuera à être creusée, même si on essaye de nous dire le contraire.
Oui,
mais
il faut néanmoins, je pense que vis-à-vis des créanciers, il faut faire quelque chose.
Bien sûr. Et puis même vis-à-vis, la dette se creuse, etc., même vis-à-vis des Français. Quand on propose le chèque énergie, le chèque
essence, et le chèque machin.
À un moment donné, c'est de la dette pour nous.
Quoi qu'il en coûte, avec de bons aspects, mais c'est vrai qu'on est sur la frontière italienne et un restaurateur ici et un restaurateur à Clavière n'ont pas eu les mêmes aides.
Ouais. Je vous cite un exemple, on a vécu ça nous au moment de la fermeture Covid. On avait des enseignants au niveau de la communauté de communes au conservatoire, des enseignants qui étaient du côté français et des enseignants qui enseignaient à Turin.
Ah oui, alors
les conditions n'étaient pas du tout les mêmes.
Tu peux nous dire c'était quoi les conditions?
Grosso modo, du côté français, le quoi qu'il en coûte a fait que les personnes qui restaient à la maison avaient
touché 80% de leur salaire.
Touché leur salaire en plus. De l'autre côté, c'était zéro. Donc on a modifié, nous, en interne, au niveau de la Comcom, les contrats de telle sorte à ce que les agents, les personnels qui travaillaient de l'autre côté en partenariat avec le conservatoire puissent
toucher
bénéficier des
mêmes avantages.
De ce qui se passait en France. Et ces personnes-là étaient en pleurs au téléphone.
Bah oui, mais
ils étaient
y a
en
de
pleurs,
quoi.
Ils nous ont remerciés. Du moins, à un moment, une frontière. On a une frontière qui nous sépare.
Le problème, c'est quand même ça. C'est-à-dire que pendant le quoi qu'on en coûte, on a vu personne défiler dans la rue en disant c'est pas normal, on va toucher pendant un an pour certains notre salaire sans travailler. Alors aujourd'hui, effectivement, demander aux gens de travailler plus parce que on a un petit peu un trou abyssal. Il y a quand même quelque chose où on pourrait se dire, bon, on va essayer de faire un petit effort, même si je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a peut-être des personnes qui vont être touchées par cette réforme des retraites et qui vont le plus en pâtir par rapport à d'autres. Et notamment, on parlait de la pénibilité. Hein.
Bien sûr.
On est tout à fait d'accord.
Après on part sur un allongement qui, je pense, va permettre de rassurer un peu tout le monde, mais on aurait pu imaginer sur une réforme un peu plus travaillée. Pourtant, ça fait 6 ans qu'elle est travaillée, mais un peu plus travaillé, que ce soit tout le long de la carrière. Pourquoi on n'imaginerait pas que des personnes qui ont entre 20 et 30 ans travaillent un peu plus, et que voilà, que les personnes qui ont entre 30 et 50
un peu moins.
À partir de 50 ans, on est, je sais pas, un temps de travail amoindri également, mais sur une durée de carrière, qu'on ait un temps de travail qui soit le temps de travail voulu. Je crois qu'il y a une centaine d'heures en moyenne par habitant de différence avec la moyenne avec l'OCDE. Ça, j'ai entendu ça à la radio très récemment. Donc voilà. Après, il y avait peut-être d'autres solutions, mais celle-là, la mise en œuvre paramétrique, elle est rapide et efficace. Voilà.
Je reviens sur les frontières. Ouais. L'Italie, comme tu expliquais, là, des gens qui n'ont rien touché pendant le Covid. Et là, on est à 15 minutes du col.
Ouais.
Et là, ils sont à 66 ans hein, pour la retraite. Hein. Et voilà. Tu vas en Espagne, ils sont passés. Pourquoi ?
Justement, on va écouter. Parce que là, j'ai trouvé. Là, en préparant l'émission, je suis tombé sur ça. La France est-elle irréformable ? C'est la question que je vous posais tout à l'heure. Et c'est lors de l'émission Un œil sur le monde, je ne sais pas si vous connaissez, de Ruth Elkrief sur LCI, ah ouais. Où elle avait donc comme invité Pascal Bruckner, qui est un écrivain et philosophe. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit.
Au Danemark, où on a voté unanimement en 2016 le passage à 65 ou 66 ans, et où les seniors réclament de continuer à travailler, et pas simplement pour gagner plus d'argent, mais c'est parce que pour eux, le travail, c'est un lien avec les autres. Et on a un peu oublié, c'est qu'effectivement, à la retraite, si on attend 60 ans ou 62 ans pour être heureux, je crains qu'on n'y arrive pas, parce que le bonheur est quand même quelque chose que l'on doit préparer. Et puis, on sait très bien ce que c'est que la retraite pour la majorité des gens. C'est quoi ? C'est la grâce, les boules, la pétanque et la dépression, et au final la maladie. C'est quand même, si on ne fait pas quelque chose de ces 20 ou 30 années supplémentaires que nous avons gagnées, alors la retraite n'a plus de sens, et c'est à ça qu'il faut réfléchir.
C'est vrai qu'en même temps la retraite est considérée en France, il y a une idée de la retraite qui est le paradis qu'on n'a pas eu avant, mais là vous avez effectivement cette expression la dépression, en même temps la pêche à la ligne et le jeu de boules au coin de la rue, c'est évidemment pas seulement comme ça, c'est aussi des grands-mères qui vont s'occuper de leurs petits-enfants, c'est des bénévoles qui vont aller profiter de leur temps libre pour aller avec les autres, c'est pas seulement la dépression.
Non, bien sûr, non, mais beaucoup de gens sont très heureux à la retraite, mais je trouve que cette espèce de bouleversement, de bazar pour 2 ans de travail en plus, alors que toute l'Europe l'a accepté, c'est propre à la France, et ça dit quelque chose quand même de notre besoin de dire non systématiquement à toute velléité de réforme, parce qu'on peut, accabler Macron, mais il n'avait pas menti, il avait bien dit 65 ans.
Alors, on est toujours dans le non, nous, Français, Sébastien. C'est dans notre ADN.
Vouloir réfractaire, non, c'est pas moi qui l'ai dit, ça.
C'est ça.
Non, mais voilà, après, si les syndicats sont reçus à la table, comme il a été dit, là, je sais pas, c'est dommage d'attendre 62 ans pour profiter de la vie. Est-ce qu'une semaine de congé supplémentaire serait pas une négociation à mettre sur la table par les syndicats tout de suite par rapport à cette réforme, en disant, voilà, écoutez, on va travailler plus.
On accepte ça, vous nous donnez un petit peu plus de oui, congés.
Et les 35 heures en 4 jours aussi.
Il y a déjà des entreprises qui fonctionnent comme ça. Après, il ne faut pas non plus attendre toujours tout de l'État. Et je pense que les entreprises qui ont décidé de mettre ça en place, c'est parce qu'elles ont réfléchi de leur côté en se disant, bah, tiens, c'est peut-être intéressant de faire ça. Mais autrement, c'est vrai qu'on est quand même irréformable, quoi.
Oui, moi je reviens sur le statut de retraité. Jean-Paul, tu le connais encore.
Ah oui, parce que, alors attendez, pour les auditeurs, il faut savoir qu'il y a deux mecs qui bossent autour de cette table, hein, Sébastien et moi-même, et il y en a deux qui ne foutent plus rien du tout.
Alors rien, hein.
Ouais. Grâce mat et boule. Voilà.
Et pas encore dépression, heureusement, pour l'instant.
La grâce mat dans le sens où on se lève une heure et demie plus tard.
Oui, on est bien d'accord.
Oui, on peut l'appeler comme ça.
Ouais, bon, en fait,
les boules, bon.
Les boules, c'est autre chose. C'est une balade que tu peux aller faire. C'est une rando.
Exactement.
C'est une petite sortie en voiture de collection avec tes copains, par exemple.
Et comme disait la dame, les petits enfants. Voilà.
Et les petits enfants.
Ah, ça, et là, il y a du taf, hein, Jean-Paul.
Et là, il y a du travail. Je peux vous dire que moi, quand j'ai dit à mes petits enfants et mes enfants, je pars à Villars, bon, ils savaient pas. dire oui ou non. Mais là, janvier, février, mars, on a eu un taux de remplissage extraordinaire, au point même que nos voisins nous ont dit « Mais vous faites chambre d'hôte ?» Ah non, non, pas du tout.
Non, c'est la famille.
Voilà, du style, je prends mon petit-fils aîné qui m'appelle début décembre, dit « Papy, je peux venir ?» Et tout. Je dis « Non, mais t'es pas un peu fada, me parler comme ça, tu viens, tu nous appelles 10 minutes avant pour que mamie te fasse des crêpes et compagnie. » Il me dit « Oui, mais on vient à 8. » Ah oui, d'accord. Ils sont venus à 8.
Il y a eu des plaintes à la mairie, non, pour le, autour de
pas
la maison.
Topage, non, pas de tapage, non.
Alors ça, j'ai eu peur, là, parce que, oh la vache, on dans va... le quartier, tout le monde, je voyais les lumières s'allumer à 1h du matin. Dit.
On va revenir quelques instants sur le RN, parce qu'on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Comme on l'entend beaucoup, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, l'entêtement d'Emmanuel Macron hein, pour cette réforme. Est-ce que cet entêtement ouvre la voie de l'Élysée à Marine Le Pen, puisque c'est elle qui, paraît-il, en sort grandie de cette réforme.
Grandie de fait, parce qu'en fait, il se prononce sur rien.
Bah, disons que l'avantage avec Marine Le Pen, c'est que moins elle parle, plus elle monte.
Oui, et ses copains pareil. Hein, c'est et pareil.
Voilà, donc c'est là, on ne l'a pratiquement pas entendu pendant cette réforme de retraite, et elle monte très haut.
Ça me paraît un peu compliqué tout ça, parce que monter dans les sondages parce qu'on ne dit rien, c'est un peu comme les Français, c'est quoi le sondage que fait Paris Match toutes les semaines, si t'as toujours des gens qui sont en haut, que tu vois jamais...
Histoire de la popularité.
Là, je crois pas trop, moi je suis toujours cru au sursaut républicain.
Ça, en c'est tout ça. Cas, il y a une semaine, c'était 55-45 oui, pour le premier tour. Si le premier tour des élections présidentielles avait lieu en face-à-face Emmanuel Macron, Marine Le Pen, bah, c'était inversé. Hein. C'était elle qui était à 55 et Emmanuel Macron à 45.
Sébastien.
Bah écoutez, le Rassemblement National fait ce qu'il fait de fond de mieux, hein. C'est-à-dire pour l'instant, le tapis, c'est sûr, ils surfent sur la colère des Français en disant, voilà, nous, on aurait fait ça, il n'y a pas de chiffrage, on revient à 60 ans, oui, c'est oui, très bien, sûr. Mais voilà, imaginons un instant, si on veut être populaire, Emmanuel Macron, il prend la parole ce soir à 20h dans un journal, il dit, je fais la retraite à 55 ans, à 4000 euros pour tout le monde. Ouais. Demain matin, tout le monde dans la rue, hourra, et pipi.
Voilà. Oui, oui. Et là, il fait un référendum d'initiative populaire.
Et demain, il est à 70% parce que c'est... Voilà. Non, le Rassemblement National, c'est toujours identique à ce qu'ils font, c'est-à-dire ils se camouflent et ils surfent sur la peur des gens, déjà. Ils surfent sur les craintes et ils n'apportent aucune solution. Aucune solution. Par contre, ce que Marine Le Pen a bien compris, c'est les sondages. Elle a été donnée gagnante en PACA au régional et puis non, elle a été donnée gagnante sur pas mal d'élections intermédiaires et puis non. Et là, je crois qu'elle a bien compris la chose, et notamment le fait de dire à ses élus, vous rentrez dans le moule, vous fermez votre bouche et on avance. Et je veux pas une chose qui dépasse.
Ils se sont effectivement, tu as raison, Sébastien. Ils se sont achetés une conduite.
Tout à fait.
Depuis quelques années et depuis quelques mois, de plus en plus, ils ont une certaine respectabilité. C'est un parti qui est devenu respectable, si on fait le parallèle avec la NUPES et LFI, où eux font n'importe quoi nawak dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux ou à l'Assemblée nationale. Résultat, la crédibilité de Marine Le Pen est devenue, elle est devenue quelque chose presque d'évident et de respectable.
Ils ont pris le contre-pied de LFI.
Tout à fait. Tout à fait.
Ne serait-ce que dans les tenues au sein du Parlement.
Alors qu'il y a un an en arrière, c'était LFI qui avait un boulevard s'ils avaient su travailler intelligemment. Et en fait, ils se sont tués tout seuls.
Tout seul autour du chef qui envoie des SMS, des tweets. Et tout le monde rentre dans le moule. Quoi. Je veux dire, quand à 23h, moi j'ai suivi le dernier débat à l'Assemblée nationale, à 23h59, tout le monde reçoit le SMS de l'ami Jean-Luc Mélenchon en disant voilà, victoire, ça n'a pas été voté. Et maintenant, tout le monde, on annonce à tout le monde que l'article 7 n'a pas été voté, n'a pas été voté, n'a pas été voté. Et qu'en sortant, tout le monde annonce l'article 7 n'a pas été voté. Voilà, il est toujours derrière et il fait du mal. Il fait beaucoup de mal parce que. Je pense que dans ces groupes parlementaires et notamment sur la NUP,
NUPES ou NUP, ou comme tu veux.
NUPES. Je pense qu'il y a quand même des gens qui méritent des choses, notamment des ex-partis socialistes qui essayent de se...
On va pas les plaindre, les ex-socialistes, parce que là, franchement, ils y sont allés de bon cœur pour sauver quelques sièges. Ils y sont allés et maintenant, ils sont dans la merde.
Et oui, j'irai même plus loin. Vous avez entendu ce qui avait été dit lors des consultations, notamment des parlementaires et des élus, par rapport au fait que la France soit dans une telle problématique énergétique. Mmh. Où certains élus, je crois que c'était l'ancien ministre, celui qui fait du miel.
Celui qui défendait les marques françaises.
Ouais, voilà.
J'ai oublié son nom.
Oui.
Et ça va nous revenir.
Ça va nous revenir.
Il annonce clairement, lui, que le sort du nucléaire s'est joué à 30 députés Europe Écologie Les Verts sur un coin de table un soir et que personne ne le croyait, mais voilà, que c'est sorti comme ça. Je veux dire, quand on
Montebourg.
Montebourg.
Arnaud, cher Arnaud.
Et quand on mène une politique nationale comme ça, comment on peut pas aller dans le mur ? Je me dis, comment on peut pas aller dans le mur ? Je veux dire, voilà. Donc,
C'est compliqué.
C'est plus que compliqué parce que au-delà du Rassemblement National, il y a quand même, je crois qu'il y a un sondage qui était sorti, notamment sur lequel jusqu'à présent les Français n'estimaient pas crédible et le discours du RN. Je crois qu'il y avait une trentaine de pourcents qui estimaient que le RN crédible. Et je crois que ça monte dur là. On est passé les 50 et cette crédibilité là sur rien, puisqu'il n'y a pas de discours.
Oui, RN, bien sûr, bien sûr.
Sans problématique. Après, revenons au niveau local, dans nos campagnes, on a quand même aussi dans des lieux, dans des banlieues, on va dire, sympas, Villars-Saint-Pancras, sympa quand même, on arrive quand même à 36, 40, 45% de RN, quoi, à un moment donné. Sur quelle problématique ? Moi, je suis ouvert, je suis prêt à discuter.
C'est plutôt de l'anti. Tu sais, le sondage qui sortait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je pense que ce ne seraient pas les gens qui voteraient pour Marine Le Pen, mais on serait sur du contre Emmanuel Macron, comme on a voté contre Marine Le Pen pour Emmanuel Macron au deuxième tour, comme on a voté aussi, on peut prendre le cas de Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, le deuxième mandat face à Le Pen, on le sait. Ouais. Et on peut même penser, et je pense les plus anciens s'en souviendront, 81, c'est pas tant un vote mitterrandien qui a eu lieu, c'est surtout un anti Valéry Giscard d'Estaing, si vous vous en souvenez bien, c'était quand même de l'anti-giscardisme qu'il y avait, et il y en avait un qui représentait ça, c'était Georges Marchais. Georges Marchais qui ne parlait pas de Mitterrand, mais qui parlait d'anti-Giscard. Donc voilà, ça a souvent été comme ça, hein, des votes contre. Oui. Je suis persuadé que François Hollande, on a voté Hollande pour ne pas avoir Nicolas Sarkozy un deuxième mandat. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous en souvenez, mais...
Oui, non, mais c'est des votes contre depuis une quarantaine d'années.
On se retrouve souvent en France à voter pas pour, mais contre.
C'est pour ça que j'avais voté Ségolène Royal. C'était contre Sarkozy.
C'est ça, oui. Exactement. Voilà. Non, c'est bien. Tu es en train de nous démontrer par A plus B. Effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. On va terminer avec la dernière grosse news de la semaine, qui m'a fait penser, moi, personnellement, à une fake news. Je me suis dit, ça, c'est rigolo. Ça aurait pu être le Gorafi qui aurait sorti cette info. Ça m'aurait absolument pas étonné. Cette info, la voilà. Par crainte de mouvements sociaux pendant les Jeux Olympiques, la SNCF va proposer des primes d'assiduité à ses salariés pour les inciter à venir travailler et surtout éviter des mouvements de grève. La SNCF a déjà donc les yeux rivés sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Des réunions avec les organisations syndicales ont d'ores et déjà commencé pour trouver des accords afin d'éviter toute perturbation pendant la compétition. Alors c'était Le Parisien qui avait sorti cette info. La SNCF pourrait même proposer donc des primes, des indemnités aux salariés qui accepteront de décaler notamment leurs vacances pour venir travailler du 26 juillet au 11 août. Alors, Nous n'en sommes qu'au début des discussions et il manque encore des détails, mais ça ressemble à une prime d'assiduité pour s'éviter une grève. Et au niveau du montant, on est encore très loin du compte. C'est ce qu'a commenté un représentant syndical auprès quotidien Le Parisien. Alors cette info, moi, elle m'a laissé sans voix, parce que là, c'est un raccourci peut-être, mais on est en train de donner une prime à des gens pour qu'ils viennent travailler.
Pour
quoi.
Faire leur boulot.
C'est ça.
Ah non, mais. Alors, rassure-moi, c'est une blague, c'est pas possible.
Non, je vous jure, j'ai cru comme toi que c'était une blague au départ, mais non, c'est pas une blague. C'est étonnant,
c'est
triste, non ?
Ce qui est étonnant, je veux dire, à un moment donné. Et c'est là où on voit le pouvoir de nuisance de certaines fédérations syndicales. Voilà. Bloquer. Les fédérations syndicales. Moi,
Sudrail, ils sont forts. Hein,
je suis dans l'éducation nationale. Quel est notre pouvoir nuisant, du moins, quel est le pouvoir nuisance des fédérations syndicales dans l'éducation nationale ? Bloquer le baccalauréat en fin d'année, mais encore, ça ne se fera pas. Là, on peut bloquer toute une structuration de pays, sur quoi ? Quand on voit qu'une dizaine qui sont sur un point stratégique, que comme ce soit bloquer un trafic global
sur toute la France.
Ah oui, c'est
un nœud. Il suffit d'être à un nœud et c'est bon.
Et c'est là où par exemple la CGT dans ses fédérations, notamment sur l'énergie, sur les transports, et a les clés de la stratégie du pays. Je veux dire, à un moment donné, si 10 personnes sont capables de bloquer une raffinerie, 10 personnes sont capables de bloquer une raffinerie, et bien on n'alimente plus.
On a ça sur le transport et sur effectivement l'énergie. Hein. Ouais, transport énergie, c'est les deux, les deux mamelles importantes de notre pays.
Revenons à la base. Moi, je suis maire d'une commune, j'ai des agents. Donc demain, il faudrait que je propose à mes agents, pour qu'ils viennent au travail, une prime supplémentaire. L'interprétation est là.
Oui, le jour où il y a de la neige, tu leur dis, ben voilà, on va augmenter.
Je l'ai vécu, ça.
Comment ça ?
J'étais conseiller municipal avec un maire avec qui j'étais pas trop d'accord, et qui arrive un jour en conseil municipal en disant, bon, ben, on va donner une prime aux agents, comme dit Sébastien, parce qu'ils ont fait le déneigement cet hiver.
Ça fait partie de leur tâche ?
C'est leur boulot, oui, mais non, quand même.
Et voilà.
Hein, c'est... La prime d'assiduité, je trouve ça fantastique comme terme. Moi, j'étais chef d'entreprise, je m'imagine, tiens, les gars, ça veut dire, je vais vous donner une prime d'assiduité, tiens, la semaine prochaine.
Vous venez travailler, donc.
Moi, je pense qu'une prime, dans une entreprise qui fonctionne, qui marche bien, qui fait des bénéfices, on est d'accord.
À un moment, il y a des résultats.
Voilà, avec des résultats, c'est cool, quoi. C'est bien. Au contraire, c'est super valorisant, ça.
Dire avant, je vais vous donner plus pour que vous travaillez plus que ce que vous travaillez d'habitude.
C'est ça. C'est payer les gens pour qu'ils fassent leur.
On sait déjà, le peu d'amour que portent les Français pour la SNCF, justement à cause de ces grèves qui arrivent régulièrement, au moins une par an depuis 1936. Et donc, là, avec un truc comme ça, ils sont en train de se faire des copains. Hein. C'est franchement terrible, hein, terrible. Voilà, c'est sur cette
aberrant.
Note quand on va se quitter pour ce numéro du Coq à l'âne. On se retrouvera bien sûr le mois prochain pour un retour à Gap. Ce sera donc au mois de mai, et puis la dernière de la saison, au mois de juin, eh bien, ce sera un retour ici à Briançon avec nos coqualiens briançonnais. Sébastien, merci.
Merci à vous.
C'était le maire de Villars-Saint-Pancras, si vous avez pris en cours Sébastien Fine qui était avec nous. Philippe et Jean-Paul, on se dit à dans 2 mois.
À bientôt.
À bientôt, ciao. À bientôt.